Chers auditeurs, chères auditrices, dans cet épisode, on entendra des témoignages de viols sur mineurs et on traitera plus généralement du sujet du viol et des agressions sexuelles dans la société suisse. En vue de la sensibilité de ces problématiques, veuillez arrêter l'écoute si elle devient trop difficile pour la reprendre dans un meilleur contexte ou ne pas la reprendre du tout. Veuillez prendre soin de vous avant tout.
Dans cet épisode, nous accueillons Juliette, une Lausannoise de 18 ans qui vient d'obtenir sa maturité au gymnase. Bravo Juliette. Donc aujourd'hui, tu fais une année sabbatique pour un peu te retrouver, savoir ce que tu veux faire après. Et tu aimes beaucoup écrire.
Oui, exactement.
Tu es ici pour nous raconter ton histoire. Quand tu avais encore 14 et 15 ans, pendant une année, tu as été en relation avec un homme de d'abord 17 et ensuite 18 ans pour la plupart de cette relation, qui a perpétué des viols t'impliquant toi. Tu étais donc une fille mineure.
Oui.
Cette relation a eu des impacts énormes sur ta vie, ta santé mentale et la manière dont tu vois la société évoluer. Tu es ici aujourd'hui pour témoigner ton expérience. On te remercie vraiment d'être là pour ça. Je voulais juste te dire qu'avant qu'on commence, si je dis des mots qui ne te conviennent pas, si je pose des questions qui ne te conviennent pas ou si les deux ont fait des commentaires qui ne vont pas pour toi, tu peux nous arrêter à tout moment, enfin ta carte blanche pour gérer le narratif.
Ouais. Ouais, ok, merci beaucoup.
En vue de l'ampleur du sujet, nous allons structurer la discussion en deux parties et je pense que ça va être deux épisodes séparés. Le premier épisode va tourner autour de cette relation qui s'est insérée dans ta vie quand tu étais jeune adolescente. Et au deuxième épisode, on va parler du regard que tu portes aujourd'hui sur la société qui t'entoure et comment elle traite les femmes. Nous avons également recueilli deux interventions d'expertes pour cet épisode, une psychologue et une avocate. Et le but était d'essayer de déconstruire ou mieux informer certaines affirmations qui sont devenues des sortes de vérités dans la culture populaire. Mais ça, on va plus en parler après. Si on commence avec la première partie, ça commence avec ta santé mentale. Ça semble arriver soudainement, mais un jour, tu te retrouves hospitalisée pour dépression sévère. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu?
Bah en fait, je pense que je vais mettre un tout petit peu de contexte avant parce que ça a été genre super rapide. Donc c'était en été 2019, je faisais partie de la fête des vignerons.
Ah,
parce que mon papa a écrit la musique en fait. Du coup, j'ai participé à cette fête.
La classe.
Vraiment un
trop
été
bien.
De folie, c'était trop bien. Voilà, je me suis fait plein d'amis, c'était hyper chouette. Et un jour, je devais du coup faire un spectacle et je me rends compte que j'arrive plus trop à me lever, j'ai dû tourner tout le temps, enfin je me sens pas bien. Et tout. Et je comprends pas trop. Et puis ce soir-là, il y avait des amis qui étaient venus voir cette représentation. Et puis malheureusement, je vais devoir rentrer avec elles. Mmh. Et je passe 3-4 jours au lit. Et puis j'arrive pas à manger. Je pleure beaucoup. Je suis vraiment pas bien. Du coup, on décide de m'amener à l'hôpital. Et puis là, on se rend compte que j'ai perdu à peu près entre 10 et 20 kilos.
Wow.
En genre 2 semaines. Donc vraiment un truc méga hardcore. Et donc tout le monde est en panique. Personne ne comprend. Et ça va très vite. Je me souviens plus vraiment. Mais on m'emmène tout de suite chez ma médecin généraliste. Où direct elle me diagnostique trop vite en fait, avec tout de suite une anorexie et des choses comme ça, et puis après donc elle m'envoie chez un psychiatre, enfin une psychiatre. Du coup je passe un peu 3-4 mois un peu dans le flou à aller chez cette psychiatre sans trop comprendre, je vais pas bien mais je comprends pas, je commence à peine le gymnase, on me met sous antidépresseurs et je comprends rien et ça va toujours pas. Et du coup en janvier 2020 on décide de m'hospitaliser et ça c'est trop mal passé. Bon, je suis tombée sur une équipe d'infirmiers et infirmières vraiment catastrophique, donc ça a été vraiment pas bien du tout pour moi. Mais je sais très bien mentir et faire genre que tout va bien. Du coup, j'ai réussi à sortir au bout d'une semaine. Et du coup, voilà un peu comment ça s'est passé pour moi. Puis après, ça a un peu continué où ça allait pas. Il y a eu le confinement, donc forcément, ça a mis encore...
On a commencé par traiter, entre guillemets, juste ton anorexie. Une anorexie supposée...
J'avais une médecin généraliste qui était très chou, mais qui était très paniquée tout de suite. Donc vraiment, au moindre petit souci, elle était là. Mon Dieu, c'est sûr que tu as ça, 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 va aux urgences. Enfin, elle était très, très alarmiste, en fait.
Okay.
Et du coup, par ma psychiatre, j'ai jamais eu un vrai diagnostic. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la nourriture, mais c'était pas ça la raison principale. La dépression, on savait pas trop d'où ça venait non plus. Enfin, tout était vraiment une grande question. On était là, on sait pas trop ce qui se passe. Personne ne comprend pourquoi du jour au lendemain, c'est vraiment l'enfer sur Terre, j'ai des envies suicidaires, enfin ça va vraiment pas. Alors que dans ma vie, tout va bien, j'ai des super amis, j'ai une super famille, enfin vraiment, on comprend rien.
Toi aussi, vraiment, tu comprenais rien. T'étais là, je sais pas ce qui m'arrive.
Non, mais c'était vraiment le flou, et puis pour mes amis aussi. Ma meilleure amie, elle m'a tout de suite dit, mais en fait, il y a un truc où j'arrive pas à y croire. Enfin, c'était hyper violent, mais après, on était très jeunes, mais elle était là, mais en fait, je comprends pas, c'est pas possible que tu aies mal, enfin pourquoi tu as mal, qu'est-ce qui se passe. Puis moi, j'étais là, bah, je sais pas. Et personne savait, et du coup, c'était très frustrant. Parce qu'il y avait vraiment plein de points d'interrogation. Ma psychiatre, elle avait commencé à me dire que je souffrais sûrement de stress post-traumatique. Mais moi, j'étais là, mais de quoi vous parlez ? Je n'ai absolument aucun traumatisme.
Ouais.
Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. Ouais. Et du coup, ça a été ça quand même pendant bien 2 ans, où c'était juste une grande question, quoi, vraiment.
Ah, 2 ans de flou.
2 ans de flou, où vraiment on met sous antidépresseur et puis ça ne marche pas, ça ne va pas et personne ne comprend.
Enfin, puisqu'on te dit, tu souffres certainement de stress post-traumatique, est-ce qu'il y a eu des tentatives de trouver ton traumatisme ?
Moi, j'étais vraiment non, parce que tout va bien dans ma vie. Enfin, j'avais des éléments dans ma vie qui n'étaient pas fous. Par exemple, j'avais perdu un ami dans un accident, du coup ça c'était un peu, mais j'avais fait mon deuil, donc j'étais là, mais du coup non, c'est pas ça. Dans ma famille ça allait bien, à l'école ça allait bien, j'avais des super amis, enfin vraiment il y avait un truc où j'étais là, mais je cherche, mais non, et personne ne comprenait, donc c'était vraiment le gros flou, quoi.
Ouais, vraiment, en surface, tout avait l'air d'aller.
Ouais, c'est ça, et depuis toujours, quoi. Mais ce qui a un peu déclenché, on va dire, le processus de « je me souviens de tout », ça a été en fait une amie, je sais pas, on parlait de nos anciennes relations, enfin elle me parlait d'un de ses ex, et qui ça s'était plutôt mal passé, et du coup elle me pose une question sur du coup le garçon dont on va parler dans cet épisode, oui. Moi j'étais là, bon bah franchement je sais pas trop, et je sais pas pourquoi, mais durant cet été là, donc été 2020, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé un peu des questions sur ce garçon, puis j'étais là, bah ouais, enfin c'était pas fou, c'était un peu nul, mais je me souviens pas de fou, je sais pas, c'était juste une relation comme ça, et puis rien de sérieux. Mais du coup, avec cette amie, ça allait plus profondément parce qu'elle était là. Mais comment ça, t'es restée avec un garçon pendant 1 an et tu te souviens de rien et tu peux juste me dire que c'était pas génial. Enfin,
parce que toi, c'est ça que tu disais, que c'était pas génial, mais finalement, je me rappelle pas de grand chose.
Ouais, que j'avais été amoureuse et puis que c'était juste mal passé. Et puis voilà quoi, j'avais pas. Alors que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, quoi, qui va être très dans les détails, donc elle était un peu là, mais c'est à dire. Et du coup, j'étais là, bah en fait, je me souviens pas. Et avec cette amie, on a commencé à regarder les conversations que j'avais avec ce garçon. Parce que j'ai tout gardé. Et du coup, on est retombé sur un épisode dont je me souvenais pas du tout, où je reçois à peu près une centaine de messages de sa part, où vraiment il m'incendie complètement. Et en même temps, il y a du chantage affectif. Enfin, rien ne va dans ces messages.
Ouais, c'est vraiment. Ouais, ouais. Red flag sur red flag.
Je suis la pire des merdes, et en même temps, si je reviens pas, il va mourir.
Ouais.
Et qu'en même temps, il a failli mourir 8 fois cette semaine, et qu'est-ce qui se passe ? Et en même temps, il m'aime à la folie, et en même temps, je suis la pire des putes.
Ouais, ouais.
Donc je suis là, ah, là, il y a un truc, mais je suis pas sûre. J'étais dans le flou, mais j'avais une piste. Et là, on commence à me faire de plus en plus de diagnostics, des tests, voilà. Où je fais des crises de dissociation, donc on me diagnostique avec un trouble dissociatif, mais en même temps on veut pas trop me diagnostiquer avec ça, parce que normalement c'est que les gens qui ont vécu des gros traumatismes qui ont ça.
Le traumatisme est toujours pas trouvé en fait.
Non, est toujours pas trouvé, on met pas le doigt dessus, du coup bah t'as sûrement ça, mais c'est pas trop possible. Et du coup il y a quand même de plus en plus d'indices, et c'est un jour en janvier du coup 2021, en une nuit je fais des espèces de rêves éveillés, enfin moi j'ai l'impression que je rêvais, mais j'étais vraiment réveillée, en fait j'ai des crises de flash où je me souviens de plein d'épisodes, et le lendemain j'allais voir ma psy, et du coup je lui dis ce que j'ai vécu et ce dont je me suis souvenue, et puis elle va tout de suite mettre le mot viol. Et ça a été super violent pour moi, parce que du jour au lendemain, tout d'un coup, j'étais victime de viol, et puis, et puis c'était horrible, quoi.
Tu passes d'une relation, bon, qui a quand même duré, mais t'as pas l'impression qu'il t'a laissé une forte impression à, en fait, t'as été victime de viol, et c'est horrible.
Non, pas du tout. Enfin, j'avais des petits indices, dans le sens que, bon, où on habite, c'est quand même très petit, on va pas se mentir. Donc, forcément, des fois, je croisais un peu dans la rue. Je me sentais pas très bien. Mais après, je me disais, non, mais c'est juste que je stresse. Enfin, quand on croise un ex... Oui. Avec qui ça s'est pas bien passé, on n'est pas super à l'aise, c'est normal. Ouais. Mais là, il y avait vraiment un truc où je faisais des crises d'angoisse, en fait. Et je comprenais pas. Mais en même temps, j'avais quelque chose où je me raccrochais encore beaucoup à lui. Par exemple, quand j'étais à l'hôpital, je lui avais écrit beaucoup de messages pour lui dire, écoute, voilà, il m'arrive ça, parce que j'avais l'impression que c'était encore un peu ma bouée de secours, quoi. C'était pas logique, quoi. Il était quand même important, dans une certaine manière, parce que je lui racontais encore des choses, et il les prenait très bien, il était très chou. Mais en même temps, je me souvenais de rien, en même temps, je savais que ça s'était mal passé. Enfin, c'était très, très étrange.
Tu commences à te souvenir, t'as ces flashs, comme tu dis, c'est des rêves éveillés comme ça. Est-ce qu'on peut du coup maintenant faire un saut dans le temps ? Est-ce que tu veux nous raconter cette histoire avec ça ?
Oui.
Tu vas parler de cet été glorieux.
Ouais.
Et ça commence pendant une soirée au bord du lac où tu rencontres plein de monde.
Ouais, voilà. Ouais. Donc c'était vraiment un peu la période où j'avais une amie avec qui on sortait tout le temps, on était beaucoup les deux. Et je sais pas, on traînait au bord du lac, et puis il y a ce garçon-là qui vient nous aborder et qui nous dit « Eh, mais je vous crois souvent ici, si jamais demain soir on fait une soirée, vous pouvez venir si vous voulez ». Mm-hmm. Du coup, nous, on est tout excités, on est là, on a 14 ans, on est là, waouh, première soirée, le truc de... C'est incroyable, quoi, c'est trop bien. Et du coup, on avait menti à nos parents, on avait inventé un truc de merde pour y aller, enfin voilà. Mm-hmm. Et du coup, on va à cette soirée, et c'est super.
C'est une soirée chez des gens ?
Pas du tout, c'est dehors, c'est au bord du lac, c'est vraiment à Vidi, on fait des grillades, on s'amuse. Et j'ai tout de suite un bon feeling avec ce mec, parce qu'en fait, il y avait un garçon, je sais même plus comment il s'appelle, mais qui draguait beaucoup ma copine, qui était un peu insistant. Qui était un peu chiant, franchement. On était les plus jeunes là-dedans. Tous, ils avaient entre 17, 18, 19. Enfin, voilà, ils étaient beaucoup plus vieux.
Donc, toi, t'avais 14.
Nous, on avait 14, les deux. Mm-hmm. Lui, il nous a tout de suite pris un peu comme ses petites protégées et nous a dit, parce que l'autre mec, je veux pas mettre de prénom parce que sinon.
Oui, on va pas mettre de prénom.
Mais du coup, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais l'autre mec était très insistant avec ma copine et voulait rentrer avec nous, voilà. Et du coup, mon agresseur était là. Écoutez, ce mec est un peu bizarre, il est un peu pas clean, il est un peu chelou avec les filles, donc je vais vous raccompagner. Donc tout de suite, il y a eu un truc où on était là, ah, il est super.
Ouais.
Il est vraiment génial. Tu mets en confiance, quoi. Et du coup, ça a continué comme ça un peu tout l'été. On faisait des soirées tout le temps avec eux. C'était vraiment. On était un peu dans une espèce de forêt avec ma copine, je me souviens, parce qu'on était là, waouh, en train en plus avec des plus grands, enfin, on se sentait stylé, quoi. Il y avait un truc un peu comme ça, où on se sentait enfin appartenir à quelque chose, parce que je pense que les deux, on a assez mal vécu notre scolarité. Moi, en tout cas, je me suis fait beaucoup un peu harceler par des amis. Elle, ça a été un peu ma sauveuse.
Ouais.
Et on était un peu les deux tout le temps, et du coup, c'était un peu une porte de sortie, en fait, ce groupe de garçons. Et on a passé des moments mais absolument incroyables, et que c'était vraiment super. Et puis ça, c'était début de l'été, c'était fin printemps, donc avril-mai. Et en août, avec mon agresseur, on commence à plutôt... Enfin, il flirte beaucoup avec moi, il m'envoie beaucoup de messages. Et vraiment, il m'inonde un peu d'amour. Beaucoup. Énormément, je suis vraiment une personne incroyable. Je suis tellement belle, je suis tellement impressionnante, je suis tellement intelligente. Je suis vraiment une déesse, quoi.
Ouais.
Du coup, forcément, moi, je suis très impressionnée par ce garçon qui est grand, qui est sympa, qui est très attentionné, qui est brillantissime. Mais vraiment, il a une intelligence qui est vachement impressionnante et une manière de parler aussi.
Comment est-ce qu'il t'impressionnait avec son intelligence ? Qu'est-ce qu'il faisait, en fait ?
Il a énormément de culture générale. Et il avait un espèce, ce qui est très ironique maintenant, quand on y repense, mais un espèce de sens de la justice qui était très prononcé.
Quand il parlait, genre, de cause sociale ou...
Voilà, il était très investi, en fait, un peu dans tout. Et puis, il savait un peu tout sur tout. Et puis, il pouvait faire des espèces d'énormes monologues avec des mots hyper compliqués. Et puis, il y avait un truc où, en fait, il était super impressionnant, quoi. Et c'était un peu le leader dans ce groupe-là, en plus. Et du coup, on commence à flirter. Et je sais pas, moi, j'étais en vacances. Je rentre de vacances, on se voit. Et là, on commence à un peu flirter. On officialise un peu. Enfin, en gros, on s'embrasse. C'est tout.
Oui.
Moi, j'ai 14 ans, je n'ai aucune envie ou désir sexuel parce que je suis encore une enfant. Et que pour moi, c'est pas encore imaginable. Enfin, je suis pas encore à ce stade-là, quoi. Le 12 août, il doit partir en vacances avec son groupe d'amis. Et je sais pas, j'avais une connerie à lui, genre un pull, une casquette, quelque chose, qui me demande de lui ramener pour son voyage. Et du coup, je vais chez lui un matin, et voilà, enfin, on se pose chez lui, tout tranquille, je sais pas, on s'embrasse, et tout d'un coup, il met sa main sous mon t-shirt. Et je suis un peu là, genre, haha, quoi ? Pardon ? C'est vraiment ça qui est en train d'arriver ? Du coup, je pousse sa main, et je suis pétrifiée de gêne, parce que je comprends qu'en fait, lui, il a des envies que moi, je n'ai absolument pas, et que je suis là, genre, ah putain, on est à ce stade-là.
Ouais. La sexualité t'intéresse pas du tout.
Mais non, pas du tout. J'ai vraiment 14 ans, je suis un enfant, j'ai des envies et des désirs d'enfant.
Oui.
Et du coup, moi, c'est vraiment un peu ma première histoire d'amour. Ça fait 3 jours qu'on s'est embrassés pour la première fois. Enfin, vraiment, pas du tout, quoi.
Ouais, toi, tu veux un amoureux et puis.
Et puis c'est tout.
Puis voilà, quoi.
Et pas un amant.
Ouais.
Et du coup, je repousse cette main-là. Ça me gêne tout de suite parce que du coup, je comprends où il veut en venir. Et lui, il recommence. Ouais. Et il trouve ça drôle. Et puis. Ça fait un espèce de jeu où lui, il est un peu là, oh là là, mais arrête, c'est bon, on s'en fout, machin. Et je suis un peu là, genre, haha, non, vraiment pas, en fait.
Ouais.
Après, il y a un de ses copains qui arrive. Du coup, moi, je pars très, très vite. Et du coup, je suis un peu là, en sortant de chez lui, genre, il veut ça, en fait. Et moi, je suis pas du tout prête. Mais en fait, je me souviens plus de la discussion, mais je me souviens qu'il avait été très... très tout de suite, ah mais t'es une gamine de réagir comme ça, c'est bon, on n'est plus des enfants quoi. J'ai toujours 14 ans, donc oui, mais ok. Et du coup, je ressors un peu avec cette pression, enfin ça m'avait mis une monstre pression et je suis là genre, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Mais c'est bon, là il est parti en vacances. Il revient de vacances et on fait une de ces fameuses soirées où en fait on va passer la nuit dehors. Donc avec ma copine, on a tout un plan pour que nos parents nous crament pas, on va dormir dans une tente dans mon jardin, enfin vraiment ridicule, mais ok. Et du coup après on descend à 1h du matin, comme ça on va les rejoindre. On passe une super bonne soirée, et comme on est avec des plus grands qui boivent de l'alcool, on boit aussi de l'alcool, et puis voilà, mais on a toujours 14 ans, et c'est un peu nos premières expériences aussi avec tout ça. Là, ça va être un peu flou, mais du coup, je sais qu'à un moment, on est une dizaine à être au même endroit, à faire la fête, et puis le but c'était on reste jusqu'au lever du soleil. À un moment, il vient vers moi, et puis je sais pas, il m'entraîne un peu plus loin que les autres. Et il me dit « Ah, regarde, là-bas j'ai mis un hamac. Viens, on se pose un peu dedans, j'en ai marre d'être avec les autres. » Puis moi je suis là « Ok, je suis un peu bourrée, c'est très tard. » Et lui aussi était un peu bourré, mais ça allait. Du coup, là, se passe la première agression. Enfin, on se pose dans la mec et tout de suite, il me met, en fait, la main dans la culotte. Et je suis là, waouh, pas du tout, en fait. Genre, qu'est-ce que tu fais? Il y a nos potes à 2m50. Enfin, qu'est-ce que tu fous? Du coup, j'essaye d'enlever sa main. Et puis, il est là, non, mais arrête, abuse pas. Et en fait, je suis pétrifiée tout de suite. Parce que dès que j'essaye de dire non et puis de le prendre et de lui dire genre non mais arrête, il est vraiment là, non mais arrête de faire la gamine, c'est bon. Et puis faut aussi se mettre en tête que j'ai 14 ans, c'est mon amoureux qui est beaucoup plus vieux. Et je suis hyper impressionnée en fait par lui. Et je suis là genre ok, en fait j'ai pas le choix. Et du coup il se passe ça, il se passe ce qui se passe et puis il me force aussi à lui faire des choses. Et du coup après on retourne vers nos amis comme si de rien n'était. Et là j'en parle pas du tout. J'en parle pas à ma meilleure amie, ce qui est très bizarre parce que normalement, enfin, si c'était consenti, bien sûr que je lui aurais trop raconté. Parce qu'en plus, c'est une fille très ouverte, hein, j'aurais pas eu peur de ça. Mais du coup, ça a été la première agression et après, tout est allé très vite, je crois. Parce que le premier viol, du coup, je pense que c'était une semaine après, quelque chose comme ça. Tout était très très rapide, mais comme il m'inondait encore d'amour. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était surtout de l'amour, mais avec du recul, c'était aussi énormément de manipulation, surtout. Mais du coup, voilà.
Tu parles du fait qu'il te disait, non mais arrête, on est pas des gamins là, c'est bon. La dernière fois qu'on s'est vus, tu disais, tu te sentais comme si t'étais la chiante en disant non.
Ah mais bien sûr. Enfin, il me le disait clairement. Enfin, pas dans ces mots-là, dans des mots beaucoup plus... Enfin, dans des grandes phrases et dans machin, mais c'était clairement ça.
T'en as déjà parlé. Est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter 2 secondes? Il y a beaucoup de termes psy qui circulent pour ce genre de relation, mais sans parler de ça, toi, avec tes mots, comment tu dirais que ça s'est vraiment passé pour que ce mec, il soit positionné en autorité. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est son intelligence? Est-ce que c'est ses monologues?
Malheureusement, j'ai été un peu prédisposée, je pense, à ce genre de relation-là, parce que j'ai eu, depuis que je suis toute petite, des gens dans ma vie, que ce soit des amis, qui avaient beaucoup d'ascendant sur moi. Et du coup, j'étais habituée, en fait, mes premiers rapports au monde et rapports à l'extérieur, qui étaient mes amis, enfin, outre mes parents qui sont très aimants et super. Ça a toujours été un espèce de contrôle sur moi. Il y avait toujours ce truc de « on m'aimait, mais que dans la violence ». Donc je pense qu'il y avait un truc où j'étais quand même un peu prédisposée à ça. Mais ça peut absolument arriver à tout le monde. Mais je pense que j'étais juste plus facile
à prendre quelqu'un en ascendant, comme tu dis.
Ouais, je pense que c'était beaucoup plus facile avec moi parce que j'étais déjà en fait habituée à être aimée comme ça. Et pour moi, c'est comme ça qu'on aimait les gens. Enfin, c'est comme ça qu'on pouvait m'aimer. Et du coup, lui, ça a été bien sûr le paroxysme. Mais il avait ce truc où au début, il était tellement gentil, tellement avenant, tellement... Il était trop sympa. Puis il y avait un truc où c'était le pote de tout le monde. Il connaissait tout le monde. Tout le monde adorait. C'était vraiment le leader. Enfin, il avait vraiment cette posture de leader. Et puis dès qu'il aimait plus quelqu'un, il faisait plus partie du groupe. Et puis c'était lui qu'on écoutait. C'était lui qu'on suivait beaucoup. Donc il avait aussi un charisme assez énorme. Il parlait beaucoup. Il parlait très fort. Il avait beaucoup de présence. Il savait tout sur tout. Et puis en même temps, il avait une espèce de froideur aussi envers les autres qui faisait que quand on est aimé par lui, en fait, c'est génial. T'as l'impression d'être honoré,
privilégié.
Y avait un peu un truc comme ça. Et moi, je me sentais comme ça. Il m'a fait sentir beaucoup comme ça. Donc, je pense que c'est ça qui a beaucoup facilité.
Et puis, quand tu parles d'être prédisposé, on avait déjà discuté ensemble. Donc, il y a ces relations d'amitié que t'as eues quand t'étais petite. Donc, t'as eu une espèce d'apprentissage, comme tu dis, de l'amour comme ça. Mais t'as parlé un peu de toi aussi. Je sais pas si t'as envie de refaire.
Oui, bien sûr.
Parce que je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ton récit.
Bien sûr.
Sans que les histoires se ressemblent forcément, mais voilà. Et qu'est-ce qui fait en toi que tout d'un coup, en fait, tu crois à un mec comme ça?
Et moi, je pense que c'était énormément ma sensibilité, parce que je suis du coup très sensible, et que j'ai énormément d'empathie pour les gens. Je pense que ça vient de moi, et ça vient aussi de comment j'ai été élevée et tout, mais qu'il y a un truc où personne n'est fondamentalement méchant. Et ça, je le pense très fort encore maintenant, ce qui est malheureux. Mais il y a un truc où j'étais là, mais en fait, si quelqu'un me fait du mal et que je comprends pourquoi il me fait du mal, bah c'est ok en fait.
C'est comme s'il faisait pas de mal.
Il y avait un espèce de truc où si tu comprends tout le processus, bah ça fait que c'est ok. Alors que pas du tout. Et du coup, j'avais beaucoup tendance à me mettre la faute dessus, en fait. En fait, là, je me sens pas à l'aise dans cette situation. J'aime pas comme il me touche, j'aime pas comme il me parle. Mais en fait, c'est de ma faute. C'est parce que je suis conne, c'est parce que je suis une enfant, c'est parce que...
Quel est le lien que tu fais entre avoir beaucoup d'empathie pour l'autre, du coup, trouver la source du malheur qu'il cause, du coup, faire que c'est ok le malheur qu'il cause parce que t'as vu pourquoi il le fait, et le fait que c'est ta faute?
C'est plus simple de penser que c'est moi la fautive dans l'histoire que penser que c'est les autres. Parce qu'en fait, pour moi, les gens, ils sont pas méchants. Les gens, ils peuvent pas être aussi terribles que ça, en fait. C'est pas possible, c'est pas tenable. Et puis, il y avait un truc où j'ai très vite, très jeune, été exposée à des comportements horribles. Et que c'était juste pas vivable, en fait, de penser que c'était vraiment comme ça. Et qu'il y a des gens qui peuvent être terribles, en fait, avec les autres. Et pour moi, c'était pas tenable. Donc, je devais avoir ma part de responsabilité. Sinon, c'est pas audible, en fait. Il y a un truc où c'est comment je vais survivre, en fait. S'il y a des gens aussi terribles que ça, et je peux rien faire. Et c'est pas de ma faute.
Et ouais, c'est ça, en fait. Moi, j'ai ça aussi. Je veux pas comparer des histoires ou quoi, mais j'ai ce truc aussi où dans le passé, quand j'ai pensé que c'était de ma faute, c'est que ça donne une illusion de contrôle aussi.
Bien sûr.
Parce que tu dis, en fait, ah, mais si je faisais les choses différemment, ça m'arriverait pas. Et c'est rassurant de dire que tu peux gérer, en fait, une situation. Alors qu'en fait, quand tu dis c'est pas de ma faute, c'est que t'es pas en contrôle, en fait.
Bien sûr.
Et ça, c'est dur, quoi.
Bien sûr. Et puis, il y a un truc aussi qui est pas audible, enfin, en tout cas pour moi, de penser que, en fait, n'importe qui peut être aussi terrible et faire autant de mal. Enfin, pour moi, c'est pas possible.
Ouais, c'est clair. Puis ça veut dire vraiment que n'importe qui peut faire du mal pour aucune raison à n'importe quel moment de ta vie.
Comment vivre avec cette idée-là? C'est pas possible. Donc je pense que ça a beaucoup influencé là-dedans. Plus le fait que lui me le répète, que j'étais bien pas comme il faut, comment dire, ça a validé ce que je pensais. J'étais là, bah oui, c'est évident, en fait.
Oui, c'est ça, c'est clair.
C'est que j'avais déjà cette idée-là, c'était sûrement tout de ma faute si on me faisait du mal, et qu'en plus la personne le décrit vraiment avec des mots et me le fait bien comprendre.
Bah, t'es là, mais tout est logique, tout est à la route, en fait.
Oui, c'est ça, bah
mais tout à fait.
Ouais, il a juste poussé les pièces du puzzle qui étaient déjà là, en fait, les a juste mis ensemble en mode, tu vois, c'est ça, quoi.
Ouais, et puis je suis là, bah évidemment, tu as tout à fait raison.
Ouais, et tu disais aussi qu'il s'est posé en protecteur, il s'est posé un peu en mentor aussi, non?
Ah, totalement. Mais ça, sur tous les aspects de ma vie. Ça, c'est le seul truc un tout petit peu bien qu'il a amené dans ma vie, c'est que je traînais encore avec des personnes qui me faisaient énormément de mal et qui m'utilisaient beaucoup. Et lui l'a tout de suite un peu détecté.
Ouais. On se demande pourquoi.
Et voilà. Il s'est reconnu, finalement. Et du coup, il était un peu là. Je pense que c'était plus de la possessivité plus que de la vraie protection. Mais il a réussi à me convaincre de jarter ces personnes de ma vie. Ce qui a été une bonne chose au final, mais ça aurait pu être n'importe qui. Ouais. En même temps, il détestait mes amis. En même temps, je me souviens d'un épisode où on commençait un peu à flirter, mais il draguait beaucoup une de mes amies, qui critiquait aussi beaucoup. Du coup, j'étais un peu là. C'est pas très chouette. Donc, le côté amical, il le gérait beaucoup. Donc oui, là, il a eu un peu un rôle de mentor, et puis sur énormément d'autres choses. Enfin, pour lui, par exemple, que je vais y aller au gymnase après. C'était complètement con, quoi. Je me rangeais dans une petite case, j'étais vraiment un mouton.
Qu'il fallait pas aller au gymnase.
Ah oui, c'est parce que si je faisais ça, c'est parce que je savais pas quoi faire de ma vie, et que du coup, c'était vraiment l'option de facilité et l'option des lâches.
Wow.
Donc ça allait pas du tout. Et après, il y a eu les options que je voulais prendre au gymnase. Donc moi, je voulais prendre art, ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait de faire. Mais il était tout de suite là, non mais... t'es trop nul.
Fallait prendre quoi, selon lui?
Mais rien, en fait. Il fallait pas que j'aille au gymnase. Il fallait que je ne fasse rien, parce que j'étais un peu bonne à rien. Donc voilà, il y a eu un peu ce côté-là. Ensuite, très vite, dans la relation, il m'a aussi fait des remarques délicieuses sur mon épilation, parce que forcément, j'ai 14 ans, je ne m'épile pas les parties intimes, pour des raisons assez évidentes. Et lui était vraiment forcé énormément là-dessus. Il était là, non, mais s'il te plaît, c'est pour moi, fais-moi plaisir.
Ah ouais, vraiment le chantage.
S'il te plaît, parce que pour moi, non, mais c'est un peu dégueu quand même. Et puis il y a un truc où moi j'ai 14 ans, c'est la première fois que je fais face à ces propos, je suis là, mais ok, je suis dégueulasse en fait, je suis dégueulasse, genre je sais plus où me mettre. Horrible, sinon il fallait pas que je fume. Ça, c'était la règle absolue.
Ouais.
Si j'avais le malheur de toucher une cigarette, ou alors que je sois avec des gens qui fument des cigarettes à côté de moi et que du coup j'allais un peu sentir la clope, ils me voyaient plus pendant une semaine. Et j'avais le droit à des scènes monumentales. S'il y avait ça, si j'avais l'audace de toucher un joint, alors là c'était mais Enfin, je crois que je lui ai d'ailleurs jamais dit, mais il l'avait compris une fois et j'avais eu le droit à une scène absolument pas possible. Mm-hmm. Alcool, c'était la même chose, alors que lui buvait comme un trou.
Ouais.
Et que moi, si je buvais une bière en soirée, c'était vraiment... ça allait pas du tout, quoi.
Mais toi, tu le ressentais à ce moment-là que c'était une forme de contrôle en disant « c'est quand même bizarre qu'il m'interdise de fumer ou de boire alors que lui, il boit ».
Surtout pour la clope. Des fois, j'étais avec ma meilleure pote et puis, je sais pas, on fumait une clope dans une terrasse l'été. Et puis, je sais pas, elle avait le malheur de mettre une photo ou peut-être qu'on voyait que j'avais une clope dans la main. Et je recevais des messages d'insultes. Et puis en fait, je me rendais compte surtout dans les moments où j'étais avec elle. Mm-hmm. Parce que j'étais là, mais en fait, j'ose pas lui dire ce qui se passe.
À elle.
Alors que je lui dis tout. C'est ma sœur, mm-hmm. On se dit tout. Et on a toujours une relation super forte où vraiment on se dit tout dans les moindres détails. Ouais. Et du coup, c'est vraiment d'avoir ces scènes et que je sois avec elle et sur mon téléphone, des dizaines de messages de lui qui m'incendient et que je me dis putain, mais... En fait, j'ai honte de lui et de cette situation parce que j'arrive pas à dire à ma meilleure pote parce que je sais comment elle va réagir, qu'en fait, là, c'est pas OK.
Donc, au fond de toi, il y a quand même une partie de toi qui a capté que c'était pas...
Oui, oui, mais ça quand même assez fortement sur ce genre de plan-là. Après, pour les viols, pas du tout. Là,
non, bien sûr, mais je veux dire, tu vois, tu pourrais juste dire « Ouais, il a raison, c'est vrai que j'abuse et puis... »
Non, sur certains points, j'ai quand même gardé mon petit côté rebelle.
T'as été consciente du fait que il abusait sur ses cas et qu'il avait clairement rien à dire sur ses questions. Quoi.
Puis, donc toutes les relations sexuelles que t'avais avec lui, il n'y en avait aucune consentie de toute façon.
Mais en fait, le truc c'est que je sais pas, parce que je me souviens pas de toutes, parce que en fait j'ai fait une estimation une fois juste pour avoir une image d'ampleur, c'est horrible, ça va être horrible de dire un chiffre, mais disons qu'on se voyait à peu près 2-3 fois par semaine, c'était toujours chez lui, et il voulait toujours coucher avec moi. Donc on va dire que sur un an, je me suis fait à peu près violer entre 200 et 300 fois. Ce qui est énorme. Donc, bien sûr, je ne me souviens pas de tout. Mais comme il a tout de suite instauré un climat de peur et en fait, ça me fait mal, je suis pas à l'aise et ça me fait sentir vraiment comme une merde. Et comme c'était ma première expérience sexuelle et pour moi, c'était ça, il y a un truc où ça a même pas laissé la place, en fait, à un certain plaisir qui peut venir peut-être une fois.
Ou éventuellement.
Ou une envie ou n'importe quoi, ce qui est tout à fait humain et normal. Mais juste, il a tellement instauré ce climat de peur qu'en fait... J'avais pas de libido, j'avais rien en fait. J'avais peur. C'est tout ce que j'avais peur.
Si je peux prendre 2 secondes, juste en, je sais pas, en mettant les choses dans un contexte que moi je vois, après vous me dites ce que vous en pensez, mais ce truc d'intérioriser que c'est ta faute ce qui arrive, ça nous arrive tellement à toutes, mais pour tellement de choses, en fait, parce que moi je parle de féminisme des fois avec des femmes, avec des amis ou des collègues ou des je sais pas quoi, et il y a toujours une femme qui va sortir le truc, oui mais c'est parce qu'elle a fait ça comme ça qu'il y a eu ça comme conséquence. Et j'ai vraiment réalisé à un moment donné que, en fait, ces femmes qui mettent la faute sur les autres femmes, c'est vraiment parce qu'elles ont besoin d'avoir une illusion de contrôle et se disent non mais moi je vais pas faire comme elle, du coup moi je suis protégée. C'est ce besoin de se sentir protégée. Et après, on en parlait avec Romy, il y a ce phénomène de syndrome de Stockholm sociétal, c'est-à-dire que tu commences à avoir de l'empathie pour l'oppresseur. En plus, toi, t'es hypersensible, tu parles que t'es quelqu'un que t'as beaucoup d'empathie pour les autres. En plus, t'es une femme, enfin, t'es assignée fille à la naissance, t'as été éduquée à avoir de l'empathie et t'as été éduquée à avoir de l'empathie pour les hommes. Et nous aussi, nous toutes, en fait. J'ai l'impression que ça nous met en situation de vulnérabilité à la base, indépendamment de nos histoires individuelles, en fait. Bien c'est sûr. Qu'on a trop d'empathie pour ces hommes. Et du coup, quand il te fait des trucs horribles, de un, t'as besoin de croire que le monde peut pas être horrible, donc c'est certainement dans ton contrôle, donc quelque part ta faute. De deux, t'as trop d'empathie pour le mec. Donc c'est comme si on nous lance comme ça dans la gueule du loup, on a aucune chance, j'ai l'impression.
Ouais, bah on nous laisse pas les bons outils, quoi. Enfin, t'es
on
là,
a pas les bons outils,
on a rien, quoi.
Puis moi, ce qui me choque aussi, enfin, par rapport à ton récit, la façon dont tu décris ce mec, moi, je veux dire, je le connais. Enfin, genre.
Bien sûr, je
suis sortie avec lui, tu vois. Genre, j'ai eu exactement les mêmes schémas. Ça n'a pas tout pris les proportions que tu as eues,
non, mais
je suis un peu là. C'était la même chose. Je suis un peu en mode, donc c'est un schéma. Évidemment que c'est des discussions qui sont difficiles à avoir, mais finalement, à l'école, ce serait pas très compliqué de dire, si jamais, red flag numéro 1. Vous êtes traitée comme la déesse du siècle, et mais tout d'un coup, vous êtes vite traitée de pute. Red flag numéro 2. Il contrôle ce que vous faites, ce que vous buvez, avec qui vous traînez. Enfin, genre, je suis un peu là. Moi, je peux faire une liste, un top 10.
Mais oui.
Des...
Et ça prend 10 minutes, et puis c'est bon, c'est classé.
Ça prend 10
quoi.
Minutes, ça va évidemment pas régler le problème, parce qu'il y a, comme on en parle, enfin, il y a beaucoup plus de background et de couches de cac, quoi. Mais je veux dire, ça fait déjà un bon truc, quoi. Une bonne base sur laquelle dire aux gens, genre, c'est jamais, ça se passe, c'est pas OK, c'est pas ta faute.
Puis le truc aussi, red flag numéro 6, un mec qui parle beaucoup. Genre, oui. Ta gueule, en fait, arrête tes monologues.
Et sur vraiment tout, quoi. Parce que moi, je me souviens, un des épisodes qui m'a beaucoup marqué, première grève féministe de toute ma vie. Ouais. Donc, je suis là, comme ça, en ville, toujours avec ma meilleure pote. Et puis, tout d'un coup, on voit un cortège de femmes, puis on est là, waouh, c'est trop bien, elles sont trop belles, c'est trop beau, c'est incroyable, et on y va. Ouais. Et vraiment, on se donne. Vraiment, on se donne à fond. On finit même par faire la une des journaux. Vraiment, nous deux, en train de tenir la banderole du devant. Enfin, vraiment, génial, une expérience folle. Et en fait, c'était un soir où je vais le rejoindre après. Du coup, moi, je vis un truc vraiment fou. Ça réveille un truc en moi où je suis là, waouh, c'est trop fou. En plus, hyper drôle, parce que cette manifestation s'appelait « Ras le viol ». Enfin, un peu serré, je trouve ça assez drôle. Mais voilà. Et du coup, après, je vais chez lui. Et puis, j'avais du retard, parce que forcément, j'avais pris du retard. Et j'arrive, et puis je suis là un peu survoltée, en fait, par ce qui vient de m'arriver. Je suis là, mais c'était fou, c'était incroyable. Et en fait, en 10 secondes, avec un regard et trois phrases, il a réussi à tout démonter, ce que je venais de vivre. Un truc, mais vraiment, mais tu crois à ces conneries? Mais vraiment, tu crois à ces conneries, Juliette? Mais c'est des fille, hystériques, quoi. Mais t'es vraiment hystérique. Mais un espèce de monologue politique, mais hyper compliqué, où je comprenais rien. Et il a réussi à tout démonter, et puis j'étais là, ah, ok. Et j'avais honte, en fait, de ce que j'avais vécu de ce moment-là, qui était genre hyper fort et hyper beau et trop bien. Et puis, enfin... c'était fou, quoi.
Ouais, puis ce truc, en fait, de ces mecs qui pensent avoir tout compris et qui font des monologues et qui t'apprennent la vie, en fait, c'est ultra courant.
Tout le temps.
Tous les mecs autour de nous, à toutes les échelles, croient avoir tout compris et n'arrêtent pas de parler et se pensent experts en tellement de sujets. Et c'est pas pour rien qu'on parle du mansplaining. C'est un problème sociétal, quoi. Encore une fois, t'as l'impression que t'es une jeune fille, tu es en société comme ça, t'as aucune chance, genre... parce qu'il y a des mecs qui parlent beaucoup et qui se croient des experts partout. Toi, t'as trop d'empathie pour eux. Enfin, c'est une catastrophe.
T'es traité de manière descendante depuis le jour 1, en fait. Puis bon, quand t'es enfant, à la limite, je veux dire.
Ouais.
Mais en fait, t'as toujours été traité comme ça par tout le monde. Donc forcément, ça s'imprime, quoi, que tu sais rien.
Et puis même quand tu vis des trucs un peu cool et t'es là et tu veux juste raconter parce que c'est trop chouette, bah juste on va te sortir des espèces de théories fumeuses qui datent des années 20 et puis t'es là, mais je peux pas juste avoir kiffé mon moment sans parler politique et sans parler ce qui s'est passé dans les années 50 et en fait je devrais être reconnaissante. Enfin, tu vois, genre quoi, juste laisse-moi kiffer mon moment, tu sais, genre.
Puis vraiment, je trouve cette insulte de gamine, elle me fait trop mal parce que je le ressens tellement, ce truc tu la sens tellement, cette honte que tu peux avoir quand t'es vraiment, tu vois, genre adolescente et tout. Il y a genre chiante et gamine, et c'est vraiment deux trucs que je trouve qui font vraiment, en tout cas à moi, particulièrement mal. Parce que la société entière te fait comprendre que t'es qu'une gamine naïve et que si t'es chiante, de toute façon, t'auras personne qui t'aimera jamais. Et que c'est des points assez sensibles sur lesquels c'est facile à appuyer.
Ah, c'est super facile, et surtout parce que t'y crois.
Parce que t'y crois déjà à la base, en fait.
Parce que t'es là, mais putain, mais ok, je suis une gamine.
J'y connais rien. Puis lui, il est tellement cultivé, oh là là.
C'est ça, quoi. Alors que non, très peu. Enfin, je pense que vraiment, à ce stade de ma vie, j'en savais beaucoup plus que lui, surtout que lui, c'est juste qu'il osait plus, en fait. C'est un culot, c'est une histoire de culot, c'est pas une histoire de culture, quoi, vraiment.
C'est grave une histoire d'arrogance, et puis d'avoir un public dédié. T'as tout le temps eu l'habitude que tout le monde t'écoute, ben c'est clair que pourquoi tu la fermerais, tu vois.
Et puis au pire, tu dis une connerie, et puis personne va t'en vouloir à vie pour ça, non, tandis que si nous, on dit une connerie, alors là, mais on est tellement débiles, mais c'est terrible, et puis vraiment décrédibiliser à vie, quoi.
Puis tous ces rapports dont tu parles de mentor et de protecteur, je me dis, c'est violent, parce que c'est des rapports qui sont ultra normalisés dans la société en général. Genre, récemment, moi, j'ai changé de job et j'ai un radar ultra allumé en ce moment. La quantité de gens qui voulaient m'apprendre des trucs. Et je suis là, mais j'ai pas demandé de l'aide, en fait. Tu sais, quand tu commences un nouveau job, t'as des questions. Et j'ai des collègues extraordinaires, trop cool, des femmes d'ailleurs, qui sont vraiment à dispo quand je pose des questions. Et c'est super. Tout d'un coup, t'as des mecs plus âgés qui me filent leur projet, parce que c'est normal que je vais reprendre leur projet, et qui s'attendent à ce qu'ils me donnent beaucoup plus que juste des infos de base sur le projet, en fait. De la sagesse, tu vois. Oui, vraiment, transmission de quel est ton rôle dans ce nouveau job. Et t'es là, mais j'ai pas demandé, en fait. Moi, je suis très au clair sur mon rôle. Et je suis pas du tout à l'aise avec ça, en fait. Et je trouve que c'est le truc de mentor protégé, c'est beaucoup trop normalisé.
Mais bien sûr. Et puis, il y a un truc où j'ai l'impression que tous les mecs font ça. Enfin, moi, j'ai pas rencontré un mec qui m'a pas une fois dit un peu genre, non, mais parce qu'en fait, je t'explique.
Exact.
On voit pas, mais il y a le changement de position de Juliette qui est hyper parlant. Tu vois, ce côté du je m'installe dans mon truc, je me relaxe dans mon siège.
Il te prend sous mon bras.
Voilà. Et je mets ma petite main sous le menton et je te regarde d'un air un peu.
Exactement. Clope au bec et je te cite du Baudelaire et en fait je vais révolutionner ta vie.
Donc dans ce moment-là, toi tu vis une relation compliquée, tu t'en rends mi-compte, disons, mmh. parce que tu, voilà, tu dis pas plein de choses à ta meilleure amie. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens... Est-ce que ta meilleure amie avait des soupçons, ou est-ce que d'autres gens dans ton entourage soupçonnaient quelque chose?
Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut se mettre en tête que les gens avec qui je traînais, avec qui j'étais très proche, c'était aussi des enfants de 14 ans. Donc, les oui. signes à ce moment-là, on les voit pas, non. et c'est normal, parce qu'on est des enfants, et ouais. on n'en sait rien, en fait. À ce moment-là, ça me dépassait complètement, enfin, ça m'a dépassé très vite, en fait,
ouais,
parce qu'il y a eu cette phase où il était adorable avec moi, mais après, c'est parti dans des trucs, c'était impossible que je gère ça, en fait, enfin, ouais. n'importe qui ne pourrait pas gérer ça, enfin, où juste, il avait des espèces de phases où il disparaissait pendant 4-5 jours, j'avais des oh, appels wow. de son frère, de sa mère.
Ah, il ne paraissait vraiment... pas que toi. Il te ghostait pas, quoi.
On ne sait pas. Et puis, il revenait avec des espèces de textes, genre de lettres, limite, qui faisaient penser vraiment à des lettres de suicide. Et en fait, c'était au moment où moi, je commençais à me sentir mal dans la relation et où je voulais partir. Et j'avais dit ça. Et là, tout d'un coup, le monde s'écroule autour de lui et c'est le type le plus malheureux de la Terre. Et du coup, moi, je dois faire face à ça. Et je suis là, mais en fait, j'ai hyper peur parce que je suis censée faire quoi avec quelqu'un dont avec qui je suis très, très malheureuse. Mm-hmm. Et je sens qu'il y a un truc qui joue pas, j'arrive pas à mettre le mot sur qu'est-ce qui joue pas, mais il y a un truc qui joue pas. Mmh. Et puis il est là, et puis il me sort des lettres où il dit que en fait il fait une dépression sévère, il voyait pas du tout psy, hein, rien du tout.
Oui, oui, là.
Et puis en fait il m'a raconté énormément de mensonges sur mmh. énormément de points de sa vie et sur des trucs qui me touchaient particulièrement. Ça, je suis pas sûre à oui. 100%, donc on va mettre une petite parenthèse, mais mmh. c'est très possible qu'il ait menti là-dessus parce que j'ai contacté son ancienne copine avec qui il était avant moi, et du coup, c'est pas très probable que ça se soit passé. Mais en fait, quand moi j'ai perdu un de mes amis dans un accident de moto, mmh. je lui en avais parlé parce que moi, c'est encore quelque chose qui me touchait énormément. Mmh. Ça faisait pas longtemps que ça s'était passé à cette période-là, donc j'étais très triste encore par rapport à ça. Et en fait, je lui en ai parlé, et sa réponse à ça, c'est de me parler d'aussi un drame qu'il avait vécu dans le même style, c'est-à-dire une fille dont il était fou amoureux était morte dans un accident de voiture. Et en fait, il a mis l'accent sur j'étais amoureux d'elle, donc c'est pire. Okay. Et en fait, il y a eu un truc où il faisait un peu les échelons de la douleur. Donc quand moi je lui disais un truc de ah, ça me rend triste, je viens de perdre un de mes amis qui est mort, mm-hmm. il me dit ah, moi, c'est drôle pire. Parce que moi aussi, et en plus c'est pire.
Et moi c'est pire, ouais.
Et en fait, en parlant à son ancienne copine quand j'ai réalisé tout ce qui s'était passé, elle m'a dit moi je sortais avec lui, enfin dans cette période-là où il m'avait dit que la fille dont il était amoureux était morte. Je suis pas morte, je suis bien là. Et j'étais là genre waouh. Et avec cette fille, on a beaucoup parlé du coup des drames de sa vie qu'il nous avait raconté aux deux, et rien n'était pareil. Okay. Elle lui avait raconté des trucs sur des maladies, des cancers dans sa famille, des trucs très très graves, très dramatiques. Moi, il m'avait parlé d'inceste, il m'avait parlé de trucs horribles, de sectes, de trucs, de machins que je comprenais à moitié. C'est quand même un peu bizarre, il nous a vachement menti quand même, hein. Ouais. C'est fou. Du coup, c'était assez compliqué, parce que du coup, dès que j'essayais de partir, parce que je me rendais compte qu'en fait j'arrivais plus à vivre, mm-hmm. bah il me retenait comme ça, ouais, avec des histoires horribles.
Ouais, où tu te sentais coupable et tu pouvais pas arrêter, ouais. quoi.
Et parce qu'en plus, même quand j'essayais, bah il m'appelait et puis il me disait non mais là je vais me tuer. Là, je vais mourir. Ouais. Et j'étais là, bah,
t'as rien à faire.
Bah, du coup, je reviens.
Bah, oui. Donc, t'as essayé de partir.
Ouais, je suis partie une première fois. Et c'est là où il y a eu un peu une semaine de blanc, où vraiment lui était au ski avec ses potes. Et je reçois des messages de ses potes, en fait, qui me disent à quel point il en a rien à foutre qu'on soit plus ensemble et à quel point il a déjà pécho plein de meufs. Donc, moi, je suis là. Bah, super.
Merci.
Je suis complètement anéantie. C'est très sympa de me dire ça.
Ouais.
Et c'est là qu'un matin, en fait, je me réveille et que je reçois ces 100 messages que j'avais lus avec mon ami après, qui m'a fait un peu réaliser tout, mais qui n'ont aucun sens, en fait. Mmh. Il y a toutes les émotions possibles dans ces messages. Il y a de la haine, il y a de l'amour, il y a des menaces, il y a, ouais. y a tout. Et j'ai plus été avec lui pendant une semaine, et après je me suis remise avec lui.
Tu t'es remise avec lui parce que tu te sentais coupable, du coup t'avais peur pour lui, ou pour toi?
J'avais peur pour lui, ouais. J'avais peur pour lui, et puis il me disait clairement qu'en fait il allait arrêter de vivre si mm-hmm. je revenais pas, mm-hmm. et puis il m'avait menti sur énormément de choses, enfin par exemple il m'avait dit que quand il était petit il avait dû prendre de la Ritaline, donc les médicaments pour les personnes qui ont des TDAH, mm-hmm. qui n'est pas un médicament addictif d'après ma psychiatre. Moi, il m'avait dit qu'en fait, il avait une énorme addiction avec ses médicaments. Donc, mmh. Moi, j'étais persuadée qu'en fait, il était complètement addict à ça et que c'était un vrai truc, une vraie drogue. Et puis, il était là, non, mais ça devrait plus être légalisé, machin, machin. Enfin, vraiment des grands discours. Et c'est en parlant à ma psy de ça, on m'a dit, non, mais il allait pas bien parce que machin, machin. Et puis, elle m'a dit, mais pas du tout. Ça n'existe pas, ça.
C'est pas un vrai truc,
ça. Ça n'existe pas, en fait. J'étais à ah, ok. Enfin, sur plein de petits points comme ça. Et du coup, moi, j'en savais rien. Je l'écoute. Il me parle de trucs horribles comme ça. On questionne pas. On ne questionne pas des histoires d'inceste, on ne questionne pas des histoires de deuil, on ne questionne pas des histoires d'addiction. Ok, je te suis.
Ouais, tu dois recevoir l'information et puis essayer de gérer avec ça, mais voilà, tu vas pas aller dans les détails. Je me demande juste, par exemple, tes parents, eux, ils voyaient quelque chose par rapport à cette relation, rien du tout. Voilà, ils savaient que t'allais voir ce gars deux, trois fois par semaine. Et puis...
J'avais aussi une personnalité très très secrète. Et il y avait un truc où il devait aussi gérer beaucoup de choses avec ma sœur, ma grande sœur. Et du coup, c'était, je pense, plus facile de ne pas voir ce qui se passait avec moi que de se dire « Ah ok, là, mais nos deux filles vont vraiment très mal et c'est vraiment la merde dans les deux cas et on comprend pas ce qui se passe.
Ouais. »
Donc non, ils s'étaient doutés de rien. Ils étaient méfiants, mais pas plus que ça. J'avais réussi à les convaincre qu'il était super et que tout allait bien.
Ouais, je pense qu'ils étaient juste méfiants de voir un mec de 18 ans sortir avec la fille de 4 ans.
Ils l'ont rencontré plusieurs fois et puis...
Ils finissent par faire confiance. La question souvent que je me pose quand je fais des parallèles avec mes histoires de relations toxiques, c'est finalement qui aurait pu m'aider et puis comment. Moi, je me reconnais quand même dans certains trucs que tu dis, dans des schémas toxiques, type t'as peur de quitter parce qu'il va être trop mal, de culpabiliser pour certaines choses. Donc moi, fondamentalement, je faisais pas confiance aux gens autour de moi, dans le sens que j'avais l'impression que si je disais ce qui se passe, j'avais l'impression qu'on m'aurait dit que c'était de ma faute, tu vois. Du coup, je me demande qui aurait pu m'aider puis comment. Et là où je veux en venir, en fait, c'est qu'on est dans la merde. Parce que c'est pas ta famille ou ma famille ou tes amis ou mes amis, c'est juste en tant que société, on est mal équipé pour aider pour ce genre de truc. Et les gens déjà sont pas assez éduqués pour voir ce qui se passe. Et même s'ils le voient, comment le dire? Est-ce qu'on est équipé pour l'entendre? Enfin, on est un peu dans la merde.
Je suis désolée, je fais plein de parallèles toujours actuellement avec la parentalité, parce que voilà, je réfléchis à l'éducation que je veux donner à mon enfant et puis pour moi ça commence là en fait. Enfin, il y a tellement de choses où on valide tellement pas l'expérience des enfants, tu vois, que ce soit des trucs d'un enfant de 2 ans qui pleure ou qui a peur, puis on dit mais non, mais il y a rien, c'est bon, il y a pas besoin d'avoir peur, tu vois. Puis, enfin, tellement de trucs où dès la naissance on invalide complètement notre vécu. En tant que femme, c'est encore décuplé parce que c'est pas seulement les parents, c'est la société entière qui va être derrière pour dire c'est pas vrai, mais non. Et c'est que des trucs comme ça. Enfin, moi, je suis en train de faire des gros parallèles dans plein de choses de ma vie. Puis je trouve que ça commence aussi avec la base, parce qu'on est juste pas informé, on n'est pas éduqué à accueillir vraiment les émotions et les ressentis des gens. Ça fait qu'en fait, tu te sens jamais cru à aucun moment. Et puis, c'est quand même vachement plus facile à manipuler.
Bien sûr. Mais en même temps, c'est hyper compliqué en fait de voir les signes quand t'as quelqu'un en face qui est là. Mais de quoi tu parles? Mais tout va bien. Tout va bien, quoi.
C'est clair.
Et puis, il y a un truc où je sais que je peux être vraiment très persuasive sur ce genre de côté-là. Et puis, enfin, c'est vrai que je pense que pour mes parents, en tant que parent, enfin, je sais pas, j'ai pas encore d'enfant, mais il y a un truc où si ton enfant te dit qu'il va bien, c'est plus facile d'y croire, quoi, que t'imaginer les pires horreurs, parce que t'imagines pas ça pour ton enfant, t'imagines pas ça pour tes amis, t'imagines pas ça pour les gens que t'aimes, parce que c'est aussi pour se protéger, quoi. Parce que des fois, ça fait juste trop mal d'imaginer que quelqu'un t'aime est en train de vivre ça et que tu peux rien y faire. Parce que s'il y a un truc où, même s'ils s'en auraient rendu compte, ça aurait rien changé. Personne aurait rien pu faire. Tant que moi, j'étais pas prête à en parler et pas prête à partir, personne n'aurait rien pu faire.
Tu l'aurais vu en cachette,
Ah, mais bien sûr.
Non, c'est clair. Et ça aurait juste empiré le truc, parce qu'à la limite, t'aurais moins parlé après. Enfin, tu te serais peut-être moins sentie encore légitime de retourner vers tes parents en disant s'il y a un autre truc qui va pas.
Mais alors que si moi, j'avais été peut-être plus informée, justement, comme t'avais dit, genre, juste à l'école ou je sais pas, n'importe quoi. Enfin, on a beaucoup d'éducation sexuelle, en tout cas. Enfin, moi, j'ai beaucoup eu d'éducation sexuelle à l'école. Au bout de 6 ans, on a compris qu'il faut pas aller prendre des bonbons chez des messieurs qu'on connaît pas, et puis comment mettre une capote, quoi. Genre, on peut prendre des sujets quand même un peu plus importants et qui vont vraiment protéger la jeunesse, qu'on a plus besoin d'avoir des équipements émotionnels, de comment on fait pour en fait gérer ça. Quand t'as les signes, c'est bon, tu sais, tu repères à un milliard de kilomètres, et puis c'est bon, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant des heures, et puis tu les juste pas rentrer dans ta vie. Mais quand tu sais pas,
puis qu'ils sont déjà là, puis qu'ils se disent qu'ils vont
tendre dans le gouffre, quoi.
Ouais.
Et tu te fais aspirer complètement, donc c'est ça vraiment. Plutôt plus que les autres qui auraient pu voir quelque chose, parce que bah ça sert à rien en fait de voir quelque chose.
Comme tu dis, toi, t'étais très persuasive dans le tout va bien, voilà, je suis une enfant secrète en plus, je dis pas beaucoup de choses sur ma vie, et puis quand on me pose des questions sérieusement, je dis que tout va bien et que c'est cool. Enfin, c'est difficile de savoir ce qui se passe dans la vie des autres, mais ouais, c'est très important de savoir pour toi ce qui se passe, et puis de lire les signes, quoi. Du coup, vous vous séparez ?
Oui.
Tu pars, en fait ?
Je pars.
Et il est toujours vivant.
Ah, il est toujours bien vivant, il y a pas de souci.
Il est toujours bien là. Donc, tout va bien.
Et en fait, c'est drôle parce que quand il a compris que je partais pour de vrai, et que là, c'était bon, c'était fini, là, il n'y avait plus du tout de menace de suicide. Hein. Là, tout d'un coup, j'étais devenue la pire des personnes possibles. Et en fait, il n'était pas du tout amoureux de moi.
Connasse.
En fait, il s'en foutait de moi, quoi.
En fait, t'étais moche.
Non, mais c'est vrai. Ouais, c'était vraiment un peu ça où, enfin, je me souviens de ce moment où on s'est vu. Du coup, moi, j'ai quitté parce qu'en fait, moi, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, et puis moi, je me sentais aller mal. Hein. Mm-hmm. Et puis j'étais là, mais je vais mal, ouais. Tu vas mal, et en fait, je suis partie par empathie parce que ouais. Je me disais, mais en fait, là, je vais tellement mal que je vais pas pouvoir t'aider.
Ouais.
Du coup, mon empathie m'a un peu sauvé la vie là pour le coup. Et quand il a compris que j'étais vraiment partie, alors là, il en avait mais plus rien à foutre de ma gueule. Hein.
Ouais, ouais.
Aucun intérêt. Enfin, c'était assez fou quoi. Il y a eu un switch direct. Et puis même après, moi, cette relation, j'ai un peu vécu comme une drogue. C'est-à-dire que c'est horrible quand il y est, mais quand il y est plus, t'es un peu là genre, j'ai quand même bien envie d'y retourner. Enfin, il y a ouais, vraiment ouais. un mécanisme qui ressemble à l'addiction en fait. Moi après. On s'est quitté donc à peu près en mai-juin. Et après, il y a tout cet été là que j'ai raconté, du coup, la fête des vignerons, tout
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Et moi, la c'est la fête. Et puis, il y a un truc aussi physique. Je montre une photo de moi en mai 2019. Et en septembre 2019, je ne suis plus la même personne. Il y a eu un truc, j'ai changé. Et c'était fou. Enfin, déjà, j'ai perdu beaucoup de poids, ce qui n'est vraiment pas cool du tout. Enfin, c'était vraiment pas bien. Je me suis refait une frange. Tout a changé. Tous mes amis ont changé aussi. Mon cercle a énormément changé en un été. J'ai rencontré tous mes amis actuels en un été. Vraiment, en 2 mois, j'ai rencontré tout le monde. J'ai arrêté de m'épiler complètement. Vraiment, depuis été 2019, je n'ai plus touché à un seul de mes poils sur mon corps. Donc vraiment, un espèce de changement complètement radical de tout ce qui m'entourait, en fait.
Ouais.
Et c'était vraiment vital. Mais j'avais encore ce truc où, quand justement, bah, je me retrouvais à l'hôpital parce que j'arrivais plus à m'alimenter, il fallait que je lui dise, en fait. Il y avait un truc où j'étais là, mais peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Pas du tout, parce qu'il m'a juste répondu « Oh là là, Juliette, mais c'est pas comme si tu avais un cancer. C'est pas compliqué. » Enfin bref, du coup voilà. Mais oui, rupture.
Tu réalises une fois que en fait ce que tu as subi c'était des viols, et là tu décides d'aller voir directement une avocate pour prendre des conseils.
Enfin, d'abord la première chose que je fais, c'est je lui envoie un message à lui. Je m'énerve encore dans ce message parce que je suis d'une tendresse.
Ouais,
c'est magnifique et genre ça m'énerve, mais je suis très tendre dans ce message, très douce. Ouais. Et en fait, je lui explique tout. Je lui explique vraiment tout, tout ce qui s'est passé, voilà, que je vais mal depuis un moment, que j'avais plus de souvenirs de notre relation et qu'en fait là, c'est... enfin vraiment, je lui explique tout le processus et je lui dis, mais en fait là, c'était pas ok. Moi, j'étais une enfant, t'étais pas un enfant. Là, j'étais pas consentante. Là, t'as abusé de moi. J'ai pas utilisé le mot viol, mais c'était assez clair.
Ouais.
Et en fait, lui me répond hyper formellement, où là déjà tu vois qu'il y a un truc où, je sais pas, mais si t'es persuadée que tu ne m'as pas violée, il y a un peu de colère, il y a un peu d'émotion, il y a un peu de « mais quoi ?» Mais pas du tout, où
ouais.
Là il y a aucune volonté de se défendre, il y a rien du tout. Il y a pas de l'empathie pour moi non plus, il y a pas une volonté de compréhension de pourquoi je lui balance ça, il est juste là « non ». Genre vraiment, il ouais. prend tous les arguments que j'ai donnés de mon message et il les démonte. Mais par ouais. des trucs hyper cons, il est là. Mais quoi, on était des enfants ? Mais pas du tout, je venais d'avoir 17 ans et toi tu allais sur tes 15 ans. Et puis j'étais là, mais vraiment notre date de naissance, il y a 3 ans et 1 mois de différence, c'est tout point à la ligne. J'avais ouais. 14 ans, tu avais 17 ans et à un moment t'avais même 18 ans pendant que j'avais 14 ans.
Donc ça c'est important du point de vue légal parce qu'on va en parler après. Bien sûr. Vous aviez plus de 3 ans de différence oui. et pendant une très bonne partie de la relation, il avait 18 ans.
Oui, ouais. il était bien majeur.
Et toi t'as
oui.
jamais eu 16 ans pendant cette relation ?
Non. Jamais. J'étais encore loin de ma ouais. majorité sexuelle.
Ouais.
Oui. Et en fait, il démonte tous mes arguments. Et puis il est là, non. C'est vrai que c'était pas une relation folle, mais c'était pas cool pour nous deux. C'était 50-50. On s'est fait ouais. du mal la même chose. Toi aussi, t'as été horrible. Donc remets-toi en question avant d'envoyer des messages comme ça. Et en fait, au début du message aussi, il est vachement dénigrant sur mon état de santé mentale. Oui, il est un peu là, mais en fait, ça se voit bien qu'il y a pas tout qui tourne vraiment rond là-dedans. Hein, ça se voit que t'as bien oublié beaucoup de choses. Et
c'est vraiment
là,
la définition du gaslighting.
Mais
quoi.
Vraiment, genre...
Genre, t'es vraiment une sale hystérique qui devrait te faire soigner.
C'était vraiment
quoi.
Ça. Et en fait, la formalité de son message était hyper violente. Enfin, en fait, j'aurais préféré limite qu'il soit en colère, qu'il m'insulte.
Ouais.
Vas-y, qu'il y ait une émotion. Mais là, ce truc de... Je t'annonce qu'en fait, tu as détruit ma vie, mec.
Ouais.
Et t'es là, non.
Ouais, un peu sociopathe, quoi.
Il y a un truc, ma psy ne l'a jamais rencontré, bien sûr, mais en parlant, justement, en revoyant tous les messages et tout, et tous les mécanismes, il y a sûrement une petite pathologie derrière ça, parce que c'est tout simplement pas humain de montrer autant aucune émotion que ça. Après, peut-être que c'est juste très bien joué et très sadique de sa part, mais enfin, pour moi, ça a été une preuve de son sadisme absolu, ce truc de... Non,
ouais.
tu mens. Tu es folle, hein. j'étais là genre bon bah ok. Donc ça a été ma première réaction et du coup c'est en juin 2021 que je décide du coup de contacter une association pour avoir des conseils juridiques avec les conseils de ma psy. Là, je suis pas du tout dans une démarche de « je veux porter plainte, je veux... » Non, je veux juste savoir, en fait, quels sont mes droits.
Ouais.
C'est quoi ma situation? Qu'est-ce que je peux faire avec ça si un jour je veux? Mais il n'y a pas de décision qui est prise. Mais du coup, j'y vais. Enfin, j'ai un rendez-vous avec une avocate. Et j'ai 17 ans, je suis morte de peur. Je suis dans un de ces énormes immeubles magnifiques, tout en marbre.
Ouais, ouais.
À Saint-François, et je suis là, genre...
dystopique comme truc.
Ouais. Non, mais vraiment, le truc des le escaliers cabinet en colimaçon partout, machin. Ouais. Je suis là, genre, waouh, c'est trop beau, mais j'ai envie de m'effacer. Ouais. Genre, c'est horrible. Et du coup, j'arrive dans ce cabinet, je me fais recevoir par cette avocate. Et moi, je suis tétanisée de peur. J'ai les larmes aux yeux, j'arrive pas à parler. Enfin, ouais. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Elle le voit bien. Enfin, vraiment, je pleure, quoi. C'est assez visible. Et du coup, elle me demande de lui décrire un peu comment ça s'est passé. Et en fait, moi, j'ai le temps de dire en fait, que voilà, je me suis fait violer de tel âge à tel âge, de donner sa date de naissance, ma date de naissance, son nom, qu'elle me dit « ça sert à rien ». Ça sert à rien de porter plainte, parce que au mieux, il aura des jours amende. Mais portez plainte quand même, parce que si vous portez pas plainte maintenant, mais que vous décidez de porter plainte dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ce sera louche auprès du tribunal que vous êtes allé voir une avocate et que vous ayez rien fait après. Et j'étais un peu là genre...
Pourquoi c'est louche?
Moi,
je sais pas, mais apparemment c'est louche. En tout cas, elle me l'a bien fait comprendre parce que du coup, vraiment, ce rendez-vous a duré 15 minutes. Elle m'explique rien, à part que ça sert à rien, mais portez plainte quand même, madame. Non, du coup, ouais. Parce que tu viens de me dire que ça sert à rien. Et en fait, elle m'a mis aussi une pression supplémentaire en me disant, mais en fait, là, j'ai grillé ma seule chance. Parce que c'est clairement ce qu'elle m'a fait comprendre. C'est qu'en fait, enfin, là, il faut pas attendre, en fait. Tu portes plainte maximum cet hiver, mais sinon, ce sera louche.
Mais pourquoi?
Je sais pas.
Pourquoi ce serait louche?
Je sais pas.
J'avais 17 ans, j'ai voulu juste un conseil, mais j'ai eu besoin de réfléchir. Enfin, je sais pas, moi.
Trop bizarre. C'était elle t'explique bizarre. Pas du tout la procédure.
Rien du tout.
Rien.
Voilà. C'est que vraiment, elle me dit, ça sert à rien. Au pire, il aura une peine pécuniaire. Mais voilà, ce genre d'histoire, ça aboutit pas à grand chose. Mais c'est quand même bien de porter plainte. Je vous laisse réfléchir et dans 2 mois, vous me redites. Et après ça, j'ai reçu énormément de lettres de sa part qui me demandaient ma décision. Du coup, puis j'étais là, mais en fait, je venais juste pour des conseils juridiques, pas pour porter plainte. Ah, c'était hyper étrange.
Je suis pas à la police.
Et ça m'a dégoûtée en fait. Il y a eu un truc où j'étais déjà au courant de la situation de juridique en fait du viol et comment ça se faisait, comment ça s'était traité, et puis là ce rendez-vous ça m'a juste dégoûtée, j'étais là mais non. Du coup
tu te sens pas du tout soutenue ou accompagnée?
Non, c'est ça, et puis j'étais là mais en fait c'est pas ma solution.
Ouais, tout ce qu'on te dit c'est juste ça sert à rien, ça va être fatigant, ça va te coûter des sous,
mais fais-le quand même.
Bah ok.
Du coup Juliette, quand tu nous as raconté ça, c'est un peu choquant d'entendre ça. On a un cas de viol sur mineur
clair et net,
même pas de zone grise ou je sais pas quoi. On quelque part on nous fait comprendre qu'en fait si ces zones grises,
ouais.
Et qu'en fait de un la procédure va être trop difficile, de deux t'auras max une peine pécuniaire ou quelques jours amende, voilà, donc c'est inutile. Et puis c'est vrai qu'on entend souvent ce genre de discours en fait. Et du coup, on a voulu essayer d'informer un peu plus ce genre de situation. Donc, on s'est approché de 2 expertes pour cet épisode. Tu es au courant, tu souris. On s'est approché d'une avocate et d'une psy. L'avocate, on s'est approché d'elle pour déjà qu'on ait un éclaircissement sur l'état des lieux de la loi en Suisse sur le viol. Parce qu'on entend toutes sortes de choses, mais qu'en est-il vraiment? Des procédures judiciaires et puis comment ça fonctionne en fait. Quelque part, est-ce que c'est vrai qu'une mineure qui se fait violer, elle peut vraiment prétendre qu'à quelques jours amende, quoi? Et on s'est approché aussi d'une psy qui a l'expérience de ce genre. En tout cas, pour lui demander quels sont les risques et bénéfices du point de vue de la santé mentale de la plaignante, si elle se lance ou si elle se lance pas dans ce type de procédure, en fait. Tu as écouté les 2 interventions. On va transmettre les 2 interventions dans le cadre de l'épisode et j'espère que tu vas nous dire ce que tu en as pensé.
C'est la fin de la première partie. Nous marquons une pause ici dans la discussion avec Juliette, d'une part parce que nous trouvons que son récit est très important et qu'il faut prendre du temps pour l'intégrer, d'autre part parce qu'un chapitre se termine quand Juliette quitte son agresseur. Au prochain épisode, nous allons partager les échanges eus avec une experte juridique et une psy concernant ce récit. Nous allons ensuite redonner la parole à Juliette pour qu'elle partage ce qu'elle pense de ses interventions et pour qu'elle poursuive ses réflexions sur la culture du viol, la société plus généralement et les injonctions et contradictions qui tombent sur sa génération. Merci beaucoup à vous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité jusqu'ici. Si vous appréciez notre podcast et vous désirez nous aider à le maintenir, vous pouvez vous rendre sur le site patreon.com/lespoissonssansbicyclette pour une participation financière. Une superbe journée à vous du podcast féministe où rien n'est jamais trivialisé.